On aime la bière, mais on est comme le bon vin. On n'arrête pas de s'améliorer. Nos show talks sont juste assez légers, juste assez charnus, juste assez sérieux, juste ben. Puis notre cellier déborde des meilleurs crus des trois dernières décennies.
Sans défaite.
Sans oublier le nouveau rock. Tes sujets, ton rock, ta radio. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
Salut, bon lundi, bienvenue sur les ondes de Boulevard 101 à Québec, en espérant que vous ayez passé un super de beau week-end et une belle journée, mis à part la météo peut-être qui nous laisse un peu perplexes. On sait pas s'il fait chaud, on sait pas s'il fait froid, on sait pas s'il neige, on sait pas s'il pleut. La pluie verglaçante, c'est extrêmement glissant et c'est probable que dans les prochaines heures, ça devrait se régler puisqu'on nous dit que ce sera congelé cette nuit. Un genre de moins 12 comme température qu'on nous annonce et avec le ressenti, ça va ressembler à un genre de moins 17, le grand nez au vent. Un genre de 5 à 10 cm, c'est ce qu'on aura d'accumulé jusqu'à la fin de la journée. Demain mardi, une alternance de soleil-nuages avec un maximum de moins 3 degrés. Pour ce qui est de mercredi, alternance de soleil-nuages avec un maximum de moins 3 degrés. Jeudi, ensoleillé minimum de moins 6 avec un maximum de moins 6 aussi, c'est assez précis. Pour ce qui est de vendredi, ce sera nuageux, maximum de plus 2 degrés. Pour ce qui est du week-end, jusqu'à maintenant, alternance de soleil-nuages, maximum de moins 2 pour samedi et un maximum de 0 pour ce qui est de dimanche. Comme à chaque lundi, c'est mon petit moment favori, le moment avec Maître Marc Bellemare, ex-ministre de la Justice. Monsieur Bellemare, bonsoir.
Hey, comment ça va?
Ça va très bien, merci d'être là. Je ne sais pas vous, mais moi de mon côté, ce matin, je me suis levé aux alentours de 5h30. Je devais monter en Beauce avec mes gars. Je suis parti de Québec et on avait une petite neige fine. Je suis arrivé à la hauteur des ponts, il pleuvait à Sio. Je suis arrivé aux alentours de peut-être 5h45, 5h50 à Sainte-Marie. Et là, c'était de la grosse neige épaisse. Je vais vous dire qu'actuellement, la météo, c'est assez particulier.
Mais tu avais le choix entre ou bien aller te baigner dehors, ou bien aller patiner à patinoire du coin, ou bien aller faire du ski. Fait que là, plains-toi pas.
Ouais.
Tu avais quand même trois opportunités extraordinaires. Laquelle as-tu choisi?
C'est juste que quand on rencontre toutes ces saisons-là, là, sur à peu près un 50 km, mais de Bellemare, on ne sait jamais comment s'ajuster à la route, hein? Tu sais, la pluie verglaçante, là, dans notre rétroviseur, pas dans notre rétroviseur, mais dans notre vitre avant, tu sais, ça, c'est comme de la pluie, mais au sol, ça glace automatiquement. Fait qu'on n'a pas le choix de rouler très, très, très lentement. Puis là, ben, quand il y a un peu de neige, on sait qu'on peut y aller peut-être un peu plus rapidement parce qu'il n'y a pas de glace en dessous. Des fois, c'est stressant. Les intempéries de l'hiver, c'est stressant, Maître Bellemare.
Oui, puis le mois de décembre, c'est plus le mois du ski ou du patin comme autrefois. On ne sait plus trop. On a une température tellement imprévisible. Et il fait bon, c'est ça. Alors autrefois, on disait le mois de novembre, c'est le mois des morts parce qu'on pouvait faire aucun sport à cause du froid puis de l'absence de neige puis de glace. Mais aujourd'hui, on est rendu en décembre avec un peu la même difficulté. Il va falloir que tu t'habitues à pitonner devant un écran avec tes deux gars.
Ouais.
C'est pas mal ça qu'il y a à faire de ce temps-là.
Bon, on essaie d'alterner, mais c'est pas grave. Mes fins de semaine, je les passe dans les arénas, puis à l'intérieur de l'aréna, il pleut pas. Fait qu'il y a de la glace.
Ah, bravo! Puis est-ce que t'as gagné en fin de semaine? Est-ce que t'as vu des beaux jeux?
Ouais, dans les deux cas, on a gagné. Moi, j'ai un gars de 7 ans, l'autre a 10 ans. Dans les deux cas, on a gagné. On est chanceux. Cette année, on a une bonne équipe à Sainte-Marie-de-Beauce. Maître Bellemare, okay. On va parler d'actualité, si vous le voulez bien. Je vous pose une question. Comment la CAQ va réussir à revenir au même point que la CAQ était il y a de ça quelques mois? On vivait, en fait, je dis « on », mais je n'étais pas inclus là-dedans. Il y avait au Québec une histoire d'amour entre la coalition Avenir Québec et son peuple, puis on dirait que tout ça est en train de s'écrouler. Je me dis, pour les hautes instances à la CAQ, ainsi que pour les gens qui s'occupent des communications, Noël, là, ça va être le temps de se jaser pour essayer de se demander qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'améliorer les choses, parce qu'ils ne seront pas capables de se relever de ça s'ils ne font pas une prise de conscience actuellement.
Oui, c'est ça. Puis il faut comprendre que la CAQ a bénéficié pendant tout son premier mandat de pandémie de beaucoup d'amour du public parce que M. Legault était dans la TV tous les jours. Il annonçait des plus ou moins bonnes nouvelles, mais ce n'était pas de sa faute. Donc, il a bien protégé les gens. Puis c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'appui populaire dans l'isoloir de la part du troisième âge. Hein. Les personnes âgées, là, je dirais qu'à 60 ans et plus, là, il y a eu beaucoup d'appui du côté de la CAQ au dernier scrutin en 2022. Là, on sent qu'il y a beaucoup d'anciens péquistes qui reviennent au PQ, d'anciens libéraux peut-être qui reviennent pas tout à fait au Parti libéral parce qu'ils attendent de connaître le chef, mais j'ai l'impression que si on se retrouve au Parti libéral avec Mme Rizgi, par exemple, là, qui est pressentie comme étant l'éventuel chef, là, moi je pense qu'une fois que son bébé aura grandi, elle va peut-être se présenter, puis ça serait une leader. Étonnante du côté des libéraux. Moi, j'ai l'impression que ce qui guette Legault, c'est un peu ça, c'est une espèce d'éclatement éventuellement, parce que c'est une coalition, et c'est une coalition, c'est toujours fragile, puis ils ont été gâtés par les sondages depuis 2018, puis là, les sondages sont pas bons, puis c'est facile d'anticiper une certaine panique dans les rangs caquistes dans ce contexte-là. Quand tu as été gâté pendant plein d'années, à un moment donné, ça va moins bien, il y a comme... Ils sont pas habitués de souffrir, comme dirait l'autre. Et tu te souviens, les libéraux de Jean Charest étaient très soudés derrière leur chef. Bien, pendant les congrès, on voyait qu'ils étaient très moribonds dans les sondages, mais tout le monde était derrière le chef, etc. Mais les libéraux, c'est pas une coalition, à la différence de la CAQ. Et si moi, je pense qu'il faut s'attendre en 2024, là, à moins d'un revirement très, très, très sérieux à la hausse, ce qui m'étonnerait beaucoup. Il faut s'attendre en 2024 à ce qu'il y ait une coupe de démission. Il y a des députés qui vont s'écœurer, il y en a peut-être d'autres qui vont changer de bord de la Chambre, mais ça m'étonnerait que ça demeure aussi soudé en 2024 que ça l'a été, par exemple, en 2020.
Bien, ce qu'on jase à l'interne, là, à l'intérieur des murs de l'Assemblée nationale, on parle de Pierre Fitzgibbon qui pourrait ne pas terminer son mandat. On parle même de Christian Dubé qui pourrait ne pas terminer son mandat. Je trouve ça assez particulier, là. Il reste encore, quoi, un bon 2 ans peut-être à la Coalition Avenir Québec, là, pour pouvoir reprendre le dessus, de voir que des super ministres comme Christian Dubé puis Pierre Fitzgibbon pourraient tout simplement démissionner puis donner lieu à des partiels. Moi, ça me jette en bas de ma chaise. Ces gens-là avaient de l'air quand même déterminés à finir leur mandat. Au début de, je vous dirais peut-être, quand Christian Dubé est arrivé pour une deuxième fois à la Coalition Avenir Québec, là, je pensais qu'il avait un désir de devenir premier ministre du Québec. Puis je pense qu'avec les années de pandémie, puis le ministère qu'on lui a donné, le ministère de la Santé, je pense qu'une fois qu'il va avoir fait ce qu'il a à faire, il va juste sacrer son camp en disant « Moi, la politique, plus jamais, là. »
Oui, mais il va certainement essayer de voir, de donner un certain résultat à sa réforme, là, parce que sa réforme a été adoptée avec le baillon. Mais il reste que c'est une réforme ambitieuse que je ne connais pas en détail. Puis très peu de citoyens savent exactement à quoi s'attendre. Peut-être qu'on ne verra pas non plus les résultats à court terme, mais j'ai l'impression qu'il va au moins se donner une année pour nous montrer que c'était une bonne réforme, finalement, ce qui a avancé, même si ça a pris le baillon puis qu'il n'y a pas l'appui de tout le monde dans le domaine de la santé. Mais on sait bien que l'appui de tout le monde dans le domaine de la santé, c'est impossible à obtenir. C'est tellement gros, c'est tellement monstrueux, ce ministère-là, qu'il ne faut jamais s'attendre à avoir l'unanimité. Mais moi, je donnerais la chance aux coureurs. Là, on va voir ce que ça va donner au niveau de l'accessibilité aux soins, puis de la rapidité avec laquelle les soins sont consentis aux citoyens du Québec.
Oui.
On va bien voir ce que ça va donner. Mais moi, j'ai pas peur des gros canons comme ça, parce que c'est des proches de Legault, là. Tu sais, Dubé, Legault, Fitzgibbon, c'est vraiment des proches, là. C'est des gros ministères. Où il y a des appuis, puis tu sais, avant que Dubé quitte pour donner ouverture à une partielle, il sait qu'il va faire mal, puis il sait qu'il y a peu de chances que ce soit. Je pense que c'est le député de Lévis, M. Dubé. Hein?
Il avait été élu
Il
une
était
première
à
fois.
Lévis avant.
Ouais, il avait été élu une première fois à Lévis, puis comme la coalition Avenir Québec n'avait pas pris le pouvoir, ben, il avait démissionné, puis on avait eu une partielle à Lévis. Et je pense que c'était Paradis qui avait passé par la suite,
Ouais,
François
François
Paradis.
Paradis, moi. Ouais. Mais il reste que moi, je me méfierais peut-être plus des petits députés d'arrière-ban, là. Des députés qui n'ont pas eu beaucoup de droits de parole depuis 2022, qui sont un peu frustrés, qui sont pas très écoutés, avec tous les revirements qu'on a vus avec le troisième lien, des décisions qui ont été prises, puis qui ont été mal analysées, qui ont nui à la crédibilité, que les députés sont obligés de défendre dans leur comté, malgré les appels, malgré les courriels. Ils sont obligés de défendre l'indéfendable. peut-être que parmi ceux-là, il y en a une couple qui vont s'écœurer et qui vont décider de partir sans avoir véritablement eu un contact très rapproché avec le premier ministre au cours des années, parce que cette partie-là est très centralisée. Puis moi, je suis toujours étonné de voir que les députés d'arrière-ban, dont on n'entend jamais parler, sont aussi solidaires. Le dernier caucus a l'air d'avoir donné des résultats. Tout le monde était derrière le premier ministre, le ministre des Finances, M. Girard, mais ça, c'était apparemment, tu sais. Parce que dans les faits, là, la prochaine claque, là, je pense qu'elle va donner des résultats négatifs pour M. Legault. Il doit être très nerveux de voir que il y a des députés d'arrière-ban qui vont peut-être décider de quitter. Puis là, on va se rapprocher de la prochaine élection. La dernière a eu lieu en 2018. On est déjà en 2022 plutôt. 2024, on va être rendu à mi-mandat l'automne prochain. C'est là que je pense qu'il va commencer à y avoir des petites fissures dans la forteresse.
Ouais, c'est circonscription de la Prairie maintenant pour ce qui est de Christian Dubé. Circonscription qui est, je dirais, au sud de Montréal, l'autre bord du fleuve Saint-Laurent. Petite circonscription. OK. Bon, là, moi, je vais vous avouer quelque chose. Ma conjointe, qui est infirmière clinicienne, est en grève. J'ai des amis qui sont autour de moi, qui sont des professeurs, qui sont en grève. La grogne commence à se faire sentir, puis pas à peu près, surtout qu'il n'y avait pas de fonds de grève pour faire la grève, ce qui fait en sorte qu'ils sont sans revenus pendant plusieurs jours. Le gouvernement semble pas vouloir donner au syndicat tout ce que le syndicat désire. Le syndicat désire pas nécessairement descendre ses demandes jusqu'à ce que le gouvernement puisse l'accepter. On dirait qu'on n'avance pas dans les démarches. Il n'y a pas de négociation très intensive, un genre de 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. On se rend compte, après ça, on s'en va chacun de notre côté, on parle avec nos syndiqués ou nos comités, puis après ça, on revient, puis on repropose, alors que nos enfants, eux autres, ils vont pas à l'école. Aujourd'hui, la majorité des gens, des élèves au Québec, n'ont pas d'école. Moi, c'est le cas de mes gars en Beauce jusqu'à vendredi. Vendredi, ce serait le retour en classe pour eux. Mais je trouve ça épouvantable, Maître Bellemare, qu'actuellement, depuis quelques semaines, ben, y a des élèves qui n'ont pas accès à la classe, alors que c'est quand même une base, là, l'éducation dans notre société. Je trouve ça atroce ce qui arrive à ces jeunes élèves-là. J'ai une pensée pour les élèves de secondaire 4, secondaire 5, qui, eux autres, vivent quand même des années importantes, là, qui vont être déterminantes pour leur accessibilité au cégep. Ces gens-là vont avoir peut-être un peu plus de difficultés qu'ils pensaient au départ. C'est ignoble ce qui arrive à nos élèves. Je comprends certains enseignants dire « Nous, nos conditions de travail ne sont pas nécessairement adéquates. » Il y en a d'autres qui, après plusieurs années, à 92 000 $ par année, avec un fonds de pension bien garni, devraient peut-être s'abstenir de commenter en disant qu'ils sont quasiment sous le seuil de la pauvreté à 92 000 $. Moi, j'ai une pensée pour les enseignants qui sont au 4e, 5e, 6e échelon. C'est pas facile. Puis eux, il faut améliorer leur sort. Mais à un moment donné, il faut que nos enfants retournent à l'école. Ça va-tu prendre une loi spéciale, Maître Bellemare? Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'ils retournent à l'école? Il ne faut pas oublier que ces enfants-là qui sont là actuellement, ils ont connu 2 ans de pandémie, Maître Bellemare.
Oui, bien, je pense que cette semaine, on n'entendra pas vraiment parler, je pense, au niveau d'une loi spéciale, une perspective de loi spéciale. Mais j'ai l'impression que la semaine prochaine, qui va être la dernière fin de semaine avant le congé de Noël, là, il va y avoir un peu d'impatience du côté du gouvernement. Parce que Mme Lebel sait exactement ce qu'elle veut. Elle veut une meilleure souplesse au niveau du système de santé, particulièrement. M. Dubé a passé sa loi. Elle veut avoir des conventions collectives qui vont permettre une meilleure organisation du travail dans le domaine de la santé. Tout le monde en parle, il y a 2 semaines, elle a été très explicite là-dessus. Ce qu'ils veulent, eux autres, ça ne dérange pas de donner de l'argent de plus, mais ils veulent avoir plus de souplesse. Il y a beaucoup d'acquis syndicaux du côté de la santé, on n'en parle pas beaucoup, mais là, j'ai l'impression que ça va venir sur le tapis. Et le gouvernement ne peut pas se permettre d'aller tellement plus loin que les fêtes, là. Parce que, écoute, là, autour de la dinde et des attaquas, là, comme disait Jean Lapierre, là, ça va jaser, serrer dans le temps des fêtes. Puis le gouvernement du Québec, le gouvernement de la CAQ, qui a déjà perdu beaucoup de plumes, beaucoup de crédibilité au cours de l'automne, qui est en retard d'un sondage tout partout. Même M. Legault est le plus impopulaire des premiers ministres du Canada actuellement. Ils vont peut-être aller du côté d'une loi spéciale, peut-être qu'ils vont rappeler la Chambre dans le temps des fêtes. pour une loi spéciale pour forcer le retour au travail des syndiqués. Ils sont 420 000 dans la rue, là. Puis du côté de l'organisation syndicale, on s'aperçoit qu'il y a quand même un certain essoufflement déjà. Comme tu le dis, le fonds de grève est insuffisant. Il n'y en a pas pour plusieurs grévistes. Manifester devant le Parlement quand tu es au sec et qu'il fait 12 degrés dehors, c'est le fun, là. Mais manifester dans Gadou, là, quand il fait moins 20, c'est une autre affaire. Puis j'ai l'impression qu'ils sentent, là, que les syndiqués sentent qu'ils s'aventurent dans une espèce de tunnel sans issue. Et moi, je pense qu'il va falloir qu'il se passe quelque chose au Québec parce que ça ne peut pas rester comme ça. Puis si le gouvernement décide d'aller vers une loi spéciale en disant « voici ce qu'il y aura dans la loi, voici comment le gouvernement va se donner une plus grande marge de manœuvre, on va donner des bonnes conditions salariales, mais on va réorganiser le travail », peut-être que ça va passer par ça, parce que je pense que Mme Lebel s'aperçoit du côté syndical, il n'y a pas d'ouverture vraiment. Il y a comme une espèce d'entêtement. Et ça ne peut pas être éternel. Puis le gouvernement du Québec est élu pour gouverner. Il n'est pas élu pour s'avachir devant un syndicat non plus, là.
Mais il n'y a pas eu une cour qui s'en est mêlée des fameuses lois spéciales en disant que c'était inconstitutionnel, puis qu'aujourd'hui, si un gouvernement veut faire une loi spéciale, c'est encore possible, mais il faut que ce soit basé sur vraiment là, des évidences fortes, là.
Oui, il y a deux jugements de la Cour suprême qui sont sortis depuis une dizaine d'années, là, en 2007 et en 2015. Particulièrement celui de 2015 qui a donné une espèce de valeur constitutionnelle au droit de grève. Parce que le droit de grève est considéré comme étant une composante du droit d'association. C'est-à-dire qu'une association syndicale légitime, c'est un droit fondamental que de s'associer dans notre société, de la même façon que c'est un droit fondamental que de parler puis de s'exprimer. Alors, c'est consacré dans les chartes et la Cour suprême en 2015 a dit que le droit de grève est un peu une espèce de prolongement du droit d'association, ce qui a donné une valeur constitutionnelle au droit de grève. Ce qui fait en sorte que pour les gouvernements, c'est un peu plus compliqué. Pour adopter une loi spéciale, il pourrait arriver que la Cour suprême ou que la Cour d'appel ou que la Cour supérieure invalide une loi spéciale en disant c'est abusif, c'est contraire au droit d'association, puis on privilégie le droit d'association au droit du gouvernement de passer une loi spéciale puis d'imposer à des grévistes qui sont en grève légitime des conditions de travail unilatérales. Sauf que ça, c'est théorique. Mais là, on n'est pas dans une salle de un cours de droit à l'Université Laval, l'Université de Montréal, on est dans la vraie vie. Et dans la vraie vie, avant que les tribunaux invalident des lois comme ça, il peut se passer des années. Alors, le gouvernement a le temps, pendant tous ces délais-là, d'imposer une loi spéciale qui serait vraisemblablement votée par la CAQ, mais à laquelle les partis d'opposition ne concourraient pas. Sauf peut-être, le Parti conservateur. Le Parti conservateur n'a pas d'élu, mais tu sais, je pense pas que le PQ, puis les libéraux, puis les Québec solidaire vont voter pour une loi spéciale. Certainement qu'ils vont voter contre. Mais si le gouvernement du Québec est capable de bien naviguer là-dedans en disant, nous autres, on n'a pas le choix, nos élèves, comme tu le dis, il faut qu'ils retournent à l'école, les malades, il faut qu'ils soient soignés, on va imposer des conditions, voici ce qu'on va imposer, puis acheter plein de pages des journaux pour vendre sa salade. Je pense que les Québécois seraient majoritairement en faveur d'une loi spéciale dans ce contexte-là. Mais comme je te dis, il faut laisser aller encore une semaine ou deux, mais dans le tournant des fêtes, là, il n'y aura pas le choix. On ne peut pas rentrer dans le congé des fêtes, dans le réveillon, puis dans le congé de Noël, puis du jour de l'an, sans savoir quelle orientation le gouvernement du Québec entend donner à cette grève-là. Parce que si on rentre là-dedans, puis que le logo ne bouge pas, puis qu'il n'y a pas de constat, puis il n'y a pas de direction, puis de décision pour mettre fin au conflit, ça veut dire qu'on rentre en 2024 avec les mêmes problèmes. Là, on est rendu facilement à la mi-janvier puis à la fin janvier. Puis là, on a beau dire qu'on va reporter la semaine de relâche, qu'on va l'annuler. On a beau dire qu'on va prolonger la session scolaire pour les jeunes. Ça, là, c'est bien beau, mais c'est encore là des casse-têtes incroyables pour les parents qui vont devoir prolonger l'année scolaire, qui vont devoir trouver des accommodements au niveau des garderies, qui vont devoir être privés aussi de congés pendant l'été. Alors, ça amène des bouleversements, on est capable d'en prendre, puis je pense que les parents du Québec, puis les malades en ont eu suffisamment depuis 2 semaines, mais là, je pense que le monde commence à être écœuré.
Entièrement d'accord avec vous. Tu sais, je reviens sur le texte d'opinion que j'ai lu dans la presse en fin de semaine, j'étais un peu outré, là. La dame se plaignait de gagner uniquement 92 000 $ par année, C'est une dame que son fonds de pension est bien garni. Je me suis dit, mais est-ce que cette dame-là est capable de rationaliser les choses? Ben oui, tu sais, c'est important d'avoir un bon salaire, puis que, tu sais, l'indexation, puis conserver son pouvoir d'achat, je comprends. Mais est-ce qu'elle comprend que les parents de ces enfants-là gagnent en majorité beaucoup moins qu'elle? Puis on pas un fonds de pension qui est blindé. Tu sais, à un moment donné, faut que les syndiqués qui ont le compte en banque un peu plus garni prennent conscience qu'il y a des gens qui travaillent pour leur remplir le fameux fonds de pension, là. Tu sais, c'est pas une question de jalousie, mais 92 000 $ c'est très bien payé. Un bon fonds de pension, c'est très précieux, mais il faut qu'ils prennent en considération que la majorité des gens autour d'eux qui essayent d'envoyer leurs enfants à l'école, bien, eux autres, ils n'ont pas de rentrée d'argent. Ils sont pénalisés énormément. Fait que la grogne, elle vient de là aussi. Je parle à des parents, moi, qui m'ont écrit, « Yann, c'est parce que là, je vais piger des banques alimentaires dans les prochaines semaines parce que je ne serai pas capable de faire mon épicerie, parce que je ne suis pas capable d'aller travailler. » À un moment donné, il faut que les syndiqués prennent conscience de ça, là, qu'il y a du monde qui travaille et qui sont touchés. Là. Ils nous prennent en otage un peu, là.
Bien, c'est sûr que M. Legault devrait peut-être jouer cette carte-là un petit peu plus, puis dire, par exemple, à quoi ça correspond en termes financiers. Parce que là, on joue d'un million, on joue d'un pourcentage d'augmentation de salaire. Mais moi, ce qui m'intéresse comme payeur de taxes, là, payeur d'impôts, là, c'est de savoir, admettons, là, qu'il donne, une augmentation de 3 % de salaire à telle catégorie de syndiqués. Ça correspond à combien sur la dette du Québec? Parce qu'on sait bien qu'on n'a pas cet argent-là. Là, ouais. Ça va aller sur la carte de crédit.
C'est parce qu'ils veulent 5.
Ça correspond à combien en termes d'endettement pour le Québec? Puis à la limite, ça correspond à combien comme point d'impôt additionnel? Parce qu'il va falloir passer à la caisse avec ça.
Mais ils veulent 5 %. Ils veulent 5 % d'augmentation de salaire par année. Je veux dire, quiconque nous écoute présentement, une minorité va avoir un 5 % d'augmentation de salaire, puis une majorité va avoir un 2, peut-être 3 %, mais ils n'auront jamais un 5 %. Et moi, je répète, là, t'sais, moi, quand vous êtes en bas de l'échelle, quand vous êtes enseignant, je vais toujours être là pour vous aider, pour améliorer vos conditions de travail, parce qu'il y a beaucoup d'échelons avant d'arriver au fameux 92 000 $ Maître Bellemare. Puis il y a aussi que, exemple, si le prof est rendu à un échelon X où il gagne 50 000 $ par année, mais on lui donne une tâche de 50 %, mais ça lui fait un salaire de 25 000 $ par année. Je veux dire, il n'y a pas quelqu'un qui peut vivre avec 25 000 $ par année. C'est pas mal sous le seuil de la pauvreté. Puis il peut même pas espérer avoir une famille. C'est à 25 000
$
par année.
Oui, c'est ça. Il peut pas. Moi, ce que j'aime... Je ne sais pas si M. Legault a été élu en bonne partie parce que c'est un homme d'affaires. On se comprend? Et contrairement à Bouchard, qui était un avocat, contrairement à Charest, qui était un avocat, contrairement à Couillard, qui était un médecin, on a souvent eu des professionnels. Là, M. Legault a été élu, en tout cas, moi, j'ai voté pour lui en 2018. Et ce qui m'intéressait, c'est son parcours d'homme d'affaires, business. Mais quand il était à Air Transat, là, il alignait des colonnes de chiffres puis s'assurait que ça arrive. Alors moi, je m'attendrais de la part d'un premier ministre du Québec à l'heure actuelle à autant de transparence et à autant de clarté. C'est possible de nous dire, voici l'augmentation de salaire qu'on va donner, surtout s'il y a une loi spéciale éventuellement qui vient, voici l'augmentation de salaire qu'on va donner, voici comment on va payer pour ça au cours des prochaines années. Parce qu'on n'entend jamais ce discours-là, on entend toujours l'augmentation des dépenses, mais on n'entend jamais parler de la manière dont on va s'acquitter de ces dépenses-là. Et là, on parle de milliards de dollars sur plusieurs années. Et je pense que si le gouvernement donne des augmentations sensibles, il doit nous dire comment il va faire pour financer ça, à quoi ça correspond sur la dette du Québec, qu'est-ce que ça amène comme compromission pour l'équilibre budgétaire aussi à long terme, et qu'est-ce qu'il va avoir en échange de l'augmentation de salaire en termes de réorganisation du travail. Parce que je comprends qu'on peut payer plus au niveau du salaire, mais si ça amène plus de souplesse, puis au bout de la ligne, les employés qu'on va payer vont pouvoir travailler dans d'autres départements, offrir d'autres types de services, puis satisfaire davantage les bénéficiaires. Mais là, ça peut s'expliquer. Mais je trouve que du côté gouvernemental, il y a une obligation de rendre compte aussi dans le cadre de ces négociations-là. Surtout celle-ci, comme tu le dis, au moment où les gens tirent le diable par la queue, puis il y a beaucoup de Québécois qui ont de la misère à faire face à l'inflation puis aux difficultés budgétaires qui sévissent dans chacun des foyers.
Maître Bellemare, parlons d'une décision du tribunal administratif du travail. Les gens en cause, c'est Pierre-Luc Melançon qui est de la partie demanderesse et Véro Dufresne, avocat, qui est la partie mise en cause. Vous vouliez nous en jaser un peu?
Oui, c'est ça. C'est une décision du tribunal administratif du travail. Les gens qui sont aux prises avec la CNSST vont être contents parce que c'est un accidenté qui a obtenu gain de cause dans un cas, ma foi, assez particulier. C'est un individu qui est habitué de travailler dans un bureau avec des équipements de travail qui sont corrects, OK? Une table au bon niveau, une chaise bien organisée, un ordinateur qui est bien situé, donc des conditions ergonomiques parfaites. Comme on s'y attend, hein. Toi, tu es assis là à ta chaise, puis tu es devant un équipement, tu n'es pas tout croche, là, tu es bien organisé. Et ergonomiquement, il n'y a pas de problème, donc tu n'as pas de problème de douleur qui vont se développer. Notre individu, lui, il est bien organisé, mais à un moment donné, il fait du télétravail. Et là, le télétravail est imposé en mars 2020, puis notre individu se retrouve chez eux à domicile dans son sous-sol, puis il n'est pas aussi bien équipé chez lui. Alors, il est avec une chaise tout croche, avec une table tout croche. On peut bien dire qu'il aurait bien dû s'organiser autrement, mais là, ça a l'air qu'il ne l'a pas fait. Alors, la réalité, c'est qu'il s'est retrouvé avec un équipement de travail qui était déficient
Ouais.
et il a commencé à développer des problèmes musculo-squelettiques.
Au
Il a commencé
niveau,
à développer des douleurs.
au niveau du cou, des bras, de la main, puis des doigts
Oui,
gauche.
exactement. Alors, à force de faire des mouvements répétitifs, à force d'avoir une mauvaise posture, il a développé des problèmes de santé et son médecin a confirmé, puis des orthopédistes, des gens qui l'ont traité, ont confirmé que ces problèmes-là étaient en relation avec un problème postural,
Mais l'homme, c'est
une mauvaise posture au
ouais.
travail.
L'homme, c'est un avocat de formation.
Absolument.
OK.
Et il s'est défendu tout seul. Et écoute, moi, j'ai regardé ce dossier-là, puis je me suis dit, je suis pas sûr que je l'aurais défendu. Parce que les problèmes d'accident, ici, s'il était tombé en bas de sa chaise, on comprend qu'il y a un événement soudain imprévu qui survient, un accident, un traumatisme qui peut venir briser la colonne, briser une épaule, etc. Mais là, c'est postural, donc c'est pas un accident, c'est plutôt une espèce de maladie professionnelle ou un accident de travail de façon élargie parce que ça a duré plusieurs jours. Et finalement, le tribunal lui a donné raison, le juge Jean-François Dufault, il a donné raison en disant c'est une lésion professionnelle. C'est une blessure qui est en relation avec le travail et malgré toute l'opposition que l'employeur a pu y mettre en disant, ben là, c'est arrivé chez eux parce qu'ils travaillaient chez eux, ils sont responsables des équipements, on n'a pas d'événements soudains et imprévus, on n'a pas d'accident, on n'a pas de traumatisme. Donc, c'est vraiment un problème postural, mais le juge a quand même accepté de considérer ça. Fait que ça veut dire que, bon, ça s'ajoute à un certain nombre de décisions qui ont déjà été rendues. C'est pas la première fois qu'un problème postural est reconnu par le tribunal administratif du travail, puis qu'une décision de la CNSST est renversée. Mais si vous avez une problématique qui s'est développée parce que vous étiez mal foutu au bureau, avec une mauvaise chaise, avec une mauvaise table, et surtout dans ces cas-là, si vous avez une étude de l'employeur qui est allée vérifier les conditions ergonomiques, parce que souvent les employeurs, quand ils voient qu'il y a quelqu'un qui a mal dans le dos, ils vont envoyer un ergonome qui va vérifier les tables sont-elles assez hautes, l'ordinateur est-il bien placé, est-ce qu'il y a les coudes appuyés, est-ce qu'il y a le dos bien appuyé au niveau de la ceinture, est-ce qu'il est penché ou pas. Alors, ces études-là, souvent, sont précieuses pour établir le côté irrégulier de la posture, si tu veux. Mais si on n'a pas ça, on a des rapports médicaux, mais dans ce cas-ci, ça a été assez convaincant pour que ce soit accepté. Donc, une belle décision pour les accidentés, moins belle pour les employeurs, mais ça veut dire, si tu es employeur, organise tout pour avoir des équipements de travail qui vont être adéquats et qui mèneront pas à des douleurs, des tendinites ou des problèmes de colonne.
Bon, moi qui ai tout le temps mal partout quand je me lève. Des douleurs au niveau du cou, du bras, de la main, des doigts gauches, puis il y avait des douleurs aussi, un petit engourdissement au niveau du visage, donc côté gauche de son visage. Et les médecins ont dit que, on lui a donné comme diagnostic qu'il y avait une cervicobrachialgie gauche.
Ouais, ça veut dire qu'il y a mal dans le cou, puis il y a mal dans un bras gauche,
Et moi,
parce que la colonne
j'appelle ça.
cervicale puis les bras, c'est connecté, hein?
Ouais, mais moi, j'appelle ça,
Alors,
Maître Bellemare, j'appelle ça un lundi, moi.
ouais, c'est ça. Mais je peux te dire, pour en avoir vu beaucoup de cas de posture comme ça,
Ouais.
qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup plus de réclamants qui perdent que de réclamants qui gagnent.
Ben, c'est
C'est,
sûr.
je dirais pas que c'est un jugement majoritaire, c'est probablement un jugement plutôt isolé, parce que ces histoires-là de problèmes de posture, très souvent, les juges vont attribuer les douleurs à un problème personnel en disant, ben là, tu sais, si tu as un peu d'arthrose dans le cou, ils vont dire, ben c'est ça, c'est parce que c'est un vieux cou, c'est parce que c'est une vieille épaule. On n'est pas toujours capable d'identifier dans la posture comme telle ou dans le travail effectué quelque chose de solide, là, comprends-tu? Par exemple, si quelqu'un est vraiment mal foutu, mal arrangé, avec une inclinaison de 20 degrés par rapport à la surface sur laquelle il travaille, ou quelque chose de très, très grave au niveau de la posture, ou des mouvements répétitifs avec une souris qui n'est pas adaptée. Mais si tu n'es pas capable de prouver ça, souvent, tu vas être refusé à CNESST. Mais dans ce cas-ci, ça a été accepté. Alors, c'est certainement une décision qui pourrait aider des gens qui ont des problèmes de posture et qui ont développé des douleurs en lien avec ça.
Puis lui, ça y rapporte quoi, d'avoir gagné contre la CNESST? On va lui payer des traitements, un remplacement de salaire?
On va lui payer des traitements, on va lui payer un remplacement de revenus pendant tout le temps où il a été inapte au travail. Okay. Parce que la CNESST, essentiellement, c'est trois choses. C'est les traitements, bien sûr, en relation avec l'accident, c'est-à-dire la physio, l'ergothérapie, la massothérapie, la kinésiothérapie, l'acupuncture, le chiro, tout ça est payé par la commission, à condition que ce soit prescrit par le médecin. Du côté du salaire, on paye 90 % du net. Ça veut dire si à cause de ça, il a dû être traité, il a dû être retiré du travail et qu'on a dû payer son salaire pendant X mois, X années, à la limite, s'il ne peut pas refaire son ancien travail à cause de ses problèmes de santé, ils vont devoir le recycler dans un emploi approprié puis payer sa perte de revenus. Puis la troisième chose qui est payée par la CNSST, c'est les séquelles, c'est-à-dire ce qui reste comme blessure à la fin des traitements, si c'est une entorse, si c'est une hernie discale, si c'est une tendinite, ben à ce moment-là, il va devoir être évalué par un médecin qui va dire, ben voici le pourcentage d'incapacité qu'on te donne, puis voici les séquelles qui lui sont payables. Il y a un barème là qui dit ben 2 % pour une entorse lombaire, 2 % pour une entorse cervicale, etc. Donc, ça varie selon la nature de la blessure, mais ça donne un certain montant à l'accidenté.
Je rappelle que ce soir, c'est lundi. Hein? Bon retour de week-end. Et on est avec Maître Marc Bellemare. On va faire une courte pause, mais si vous avez des questions pour Maître Marc Bellemare, vous avez des dossiers de SAC, d'IVAC, de CNESST, c'est bellemareavocat.ca. On fait une très courte pause et on vient.
Marceau, le soir.
Boulevard. 102.1.
Boulevard, fier de vous présenter le nouveau rock. Mike Shinoda, already over. Consultez notre sélection musicale et votez pour les nouveautés et les radars au blvd.fm ou sur l'application mobile.
Marceau Soir, présenté par Voyage Aquaterra Lévis, Québec. Visitez la nouvelle agence de Québec. Maintenant, deux adresses pour vous servir, boulevard Bastien à Québec et avenue Taniata à Lévis. Marceau Soir, présenté par Voyage Aquaterra Lévis, Québec. Visitez la nouvelle agence de Québec. Maintenant, deux adresses pour vous servir, boulevard Bastien à Québec et avenue Taniata à Lévis.
C'est payant d'écouter Boulevard 102.
Restez à l'écoute pour gagner votre paire de billets pour assister au All Elite Wrestling le 27 mars prochain au Centre Vidéotron.
Boulevard 102.1. Votre pocheur d'étiquette.
Pendant l'événement, le parfait cadeau des fêtes, économisez gros sur un Jeep Grand Cherokee. C'est le grand luxe. Regardez le design, la finition, la couleur. Hein? Ah oui, c'est vrai, on est à radio. C'est dommage.
Pendant l'événement Le Parfait Cadeau des Fêtes, obtenez jusqu'à 10 % de rabais sur le PDSF, soit jusqu'à 8 700 en rabais sur la plupart des Jeep Grand Cherokee 2024. Passez voir votre concessionnaire pour plus de détails.
Allez l'essayer, je vous attends, je reste ici, je suis à côté.
Le sirop d'érable canadien, c'est bon dans tout. Surtout dans le quart de livre barbecue à l'érable avec bacon de McDo. Garni de fromage fondu, d'oignons croustillants et fait de bœuf canadien à 100 %. On te dérange pas trop, Claude?
Ben, je me suis dit qu'un peu de cuillère, ça ferait érable.
T'es bien fin, mais le burger est approuvé par Cole Caulfield, pas par Claude Legault.
Salut, Claude.
Hey, salut, Cole.
Bye, Claude. Le quart de livre barbecue à l'érable avec bacon. Seulement pour une durée limitée dans les McDo participants.
Préparez-vous à gâter votre amateur de plein air préféré pour les fêtes chez Sale. Économisez sur l'équipement de sport d'hiver, les manteaux, les bottes et plus. Obtenez jusqu'à 50 % de rabais sur une sélection d'articles des meilleures marques de plein air. Sale, la plus grande destination plein air 100 % québécoise.
Les Aliments Couture, c'est ceux qui fabriquent les fameux cretons couture depuis plus de 80 ans avec la même recette d'antan. Ben, ils vous souhaitent de joyeuses fêtes et vous rappellent que vous pouvez acheter leurs cretons et leurs sauces à spag dans tous les bons supermarchés de Québec. Les cretons Couture, synonyme de qualité et de bon goût.
Grande nouveauté chez Poliquin Travailleur à Saint-Romuald. La marque suédoise Black Ladder est arrivée en magasin. Des vêtements de travail robustes qui se démarquent par leur qualité et leur design. Découvrez la différence chez Poliquin Travailleur. 21 90 3e rue, Saint-Romuald.
Une visite chez le vétérinaire stresse votre animal? La clinique vétérinaire Harmonia Soins et Bien-être est la solution pour vous. Personnel spécialisé en comportement, ambiance calme et apaisante avec une approche personnalisée, bienveillante et rassurante. C'est ça, l'expérience Harmonia.
Pour que vos repas des fêtes soient dignes d'un vrai festin, votre complice, la Boucherie Délice. Viande, charcuterie, fondue, prêt à manger, tartare, bière de micro. Boucherie Délice, pour la qualité et le service. Boucherie Délice avec un S.com. Route des Rivières à Saint-Rédempteur. Joyeuses fêtes.
Les lutins sont de retour au Trécarré pour les fêtes. Cette année, ils seront accompagnés des petits biscuits qui vous feront vivre la magie de Noël du 9 décembre au 7 janvier. Concert, rendez-vous avec le Père Noël, marche au flambeau. Programmation complète sur la page Facebook de Noël au Trécarré.
Sanivac offre ses services dans la ville de Québec. Choisissez Sanivac, une entreprise familiale depuis 1961. Expert en location de toilettes portatives et roulottes sanitaires, vidange de trappes à graisse, hydroexcavation, nettoyage d'égouts, déblocage et pompage en tout genre. Choisissez Sanivac. Avec plus de 15 000 toilettes portatives, 500 employés qualifiés, 300 camions et 8 succursales, Sanivac possède l'inventaire pour vous offrir un service qui dépassera vos attentes. Travaillons ensemble. Choisissez Sanivac.
Laisser son moteur tourner par temps froid, de peur que la batterie tombe à plat, c'est pas la solution parfaite. Passez donc chez Desharnais pour une vérification. Pour le service, les batteries, les pneus, Desharnais, c'est juste parfait.
Attention, attention! Chez La Vue, c'est la folie! Pour 5 jours seulement, obtenez votre examen de la vue et votre monture gratuitement! Oui, vous avez bien entendu! Profitez de cette offre incroyable du 7 au 12 décembre à Beauport, lavue.ca. Détail en magasin par un optométriste jusqu'à concurrence de 250 $ sur les modèles sélectionnés. Véronique Michaud, opticien.
Une clinique médicale qui offre un service d'urgence mineur et la télémédecine d'urgence 7 jours sur 7, c'est Medicaction. Rendez-vous en moins de 24 heures pour la sinusite, bronchite, otite, infection urinaire, zona, cellulite et plus. Aucun frais administratif ou d'ouverture de dossier. Medicaction.com.
Les Entretiens Gautier, spécialisés dans l'entretien paysager, et Martin Dessert, créateur de Bonheur Sucré depuis 1989, font appel à votre générosité en cette période des fêtes. Le 20 décembre, participez à la 3e édition de la grande collecte de denrées à domicile des Entretiens Gautier, en collaboration avec Moisson Québec et Martin Dessert. 5 délicieuses bûches de Noël à gagner parmi les donateurs. Une gracieuseté, Martin Dessert. Vous souhaitez aider les personnes dans le besoin? Pour faire vos dons, rendez-vous sur entretiengautier.ca, onglet « Nous joindre ». Merci de votre générosité.
Pour un lunch sur place ou une bouffe à emporter, pensez à la dinette de la laiterie Charlevoix. Fromage en plateau, hungry cheese, fondue parmesan. Cet hiver, réchauffez-vous avec un brie fondant et une soupe à l'oignon gratiné. La dinette de la laiterie Charlevoix au Grand Marché de Québec.
La pizzeria numéro 900 sur Maguire, c'est la place pour mettre le soleil de l'Italie dans votre journée. Profitez d'une ambiance conviviale et d'un salon privé disponible pour vos repas en famille, entre amis ou collègues. La pizzeria numéro 900, la seule franchise au monde à être certifié Verace Napolitaine Pizza.
En décembre, Sainte-Foy-Nissan et Beauport-Nissan joignent leur voix à la guignolée des médias. Avec une augmentation sans précédent de gens qui ont recours aux banques alimentaires, si vous le pouvez, apportez des denrées non périssables chez Beauport-Nissan et Sainte-Foy-Nissan. Merci.
Comme un cocktail, la vie est plus savoureuse quand on se mêle aux autres. Car tout est meilleur quand on y ajoute notre propre saveur. Smirnoff, depuis 1864. L'âge légal est requis pour boire de l'alcool. Veuillez boire avec modération.
Chez SGL Climatisation Chauffage, la qualité est au cœur de notre service. En cette période de réjouissance, nous voulons remercier chaleureusement nos employés et nos fidèles clients de leur confiance. Joyeuses fêtes à tous! SGL, fier concessionnaire des thermopompes et fournaises Daikin.
À Boulevard 102.1, la semaine, on vous jase de tout ce qui se passe dans votre ville et ailleurs.
Côté actualité, un autre gros matin.
On le fait-tu ou on le fait pas? Il va déjà y avoir plus d'un milliard de dollars d'investissement.
On supporte et on épouse la cause.
Puis on joue du rock. La fin de semaine, ben, on joue plus de rock. Le samedi de 8 à 21h, on est all in anglo avec le meilleur. La business.
Boulevard 102.1.
Les sujets, ton rock, ta radio. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir. Marceau, le soir. Le soir. Le soir.
Le En ce lundi, avec Maître Marc Bellemare qui est au bout du fil. Quand est-ce que je vais vous revoir en studio, Maître Bellemare? M'avez-vous abandonné? C'est-tu l'odeur? Essayez-vous de me passer un message? Qu'est-ce qui se passe, Maître Bellemare?
Non, mais on vit dans le numérique. Moi, je suis un gars à mode, hein? Je suis un jeune homme.
Exact.
Et j'aime beaucoup les Zooms et les Teams. Et à un moment donné, j'ai rencontré un certain Yann Marceau qui m'a dit « Hey, on peut peut-être faire ça à distance, puis de telle manière, de telle façon. » Parce que moi, je suis un avocat qui plaide beaucoup.
Oui.
Je suis souvent devant le tribunal, je me déplace, je vais plaider à Valleyfield, je vais plaider à Robertval, je vais plaider à Gaspé. Pas toujours là, mais je trouve toujours le moyen de te voir. Mais mon cher Yann, quand je suis pas trop loin, quand je suis dans la région de Québec, ça me fait plaisir d'aller en studio avec toi. Mais des fois, on n'a pas le choix que de faire ça à distance. On s'est modernisé beaucoup, là.
Mais je trouve ça...
contact surtout.
Ouais, mais je trouve ça formidable qu'on soit capable de réaliser ce genre de choses-là. Des fois, j'écoute LCN ou RDI, c'est la même chose. Quand vous donnez des entrevues, vous êtes à votre bureau, puis vous parlez directement dans les studios d'LCN ou RDI. Mais souvenez-vous, quand on était dans les années 70, les années 80, il y avait des films extrêmement futuristes où on voyait un individu qui était à l'extérieur, qui n'était pas dans le salon, et pouf, tout d'un coup, on avait une grosse face qui apparaissait et les gens se parlaient à distance. T'sais. Bon, on est rendu là, puis on dirait qu'on s'en rend pas nécessairement compte, mais moi, je trouve ça tout à fait formidable. Je me souviens du premier film, c'était-tu le premier ou le deuxième, Back to the Future, où il rencontre ses parents dans le...
Il voit ses
parents dans le futur, puis c'est ça, il arrive dans le salon, puis il y a quelqu'un qui est projeté à l'écran, puis il est capable d'avoir une communication avec. Ben, on est là-dedans, Maître Bellemare, c'est le fun. Les communications, ça s'est beaucoup amélioré. Je voulais parler de certains dossiers avec vous. On revient un peu sur le fameux drame de la garderie à Laval. Je ne sais pas si vous vous souvenez, là, lorsque le chauffeur d'autobus avait décidé, lui, qu'il prenait son autobus puis qu'il rentrait dans une garderie. Les parents semblent avoir énormément de difficultés à trouver de l'aide. Puis ça me rappelle un peu l'histoire de ce pauvre homme qui a perdu sa famille sur Dufresne-Montmorency. Après 6 mois, Maître Bellemare, il n'avait pas réussi à avoir de psychologue encore. C'est une station de radio qui a été obligée de faire un appel à tous pour dire... Regardez, là, il n'y a pas d'aide psychologique qui lui est offerte, puis ça y prend de l'aide psychologique. Y a-t-il un psychologue qui est disponible? Qu'est-ce qui fait en sorte que c'est difficile puis que les parents doivent se battre pour tout dans ce genre de circonstances-là?
Ben, si on essaie de récapituler, là, ce qui s'est produit, c'est à Sainte-Rose, à Laval, donc près de, au nord de Montréal, le 8 février 2023. C'est un chauffeur d'autobus qui travaille pour une société de transport qui... utilise son véhicule comme un autobus bélier contre une garderie éducative. Alors, il y a 2 enfants qui sont tués dans cet événement-là, qui est considéré pour lui comme chauffeur d'autobus comme un accident de travail, parce que lui, il est chauffeur, donc lui a été sur la CSST depuis ce temps-là. On a de l'argent au Québec, on paye pour les gars qui rentrent dans les autobus avec leur véhicule. Donc, il est certainement sur la CSST encore aujourd'hui parce qu'il était blessé dans l'événement, sinon physiquement, certainement psychologiquement. Mais les parents des enfants qui ont été tués sont des victimes d'actes criminels, indirectement par l'enfant. Donc, il y a un montant d'argent qui est payé par l'État pour l'enfant qui est décédé, les frais funéraires, puis une allocation forfaitaire. Mais les parents, eux, qui ont vécu ça, ils sont complètement chamboulés, bien évidemment. Mm-hmm. Et ils sont arrêtés de travailler pendant un certain temps. C'est très difficile de savoir combien de temps ça peut durer. C'est variable. Ça dépend d'une personne à l'autre. Ça dépend de la relation que le parent a avec l'enfant aussi. Il y a des parents qui vont le vivre plus difficilement que d'autres. Ça dépend de l'historique de chaque famille. Ça dépend des susceptibilités individuelles de chacun des parents. Il y en a qui se relèvent plus facilement de ce genre de traumatisme-là que d'autres. Mais ils sont indemnisés. Et là, ce qui se produit... c'est que la loi sur l'IVAC, indemnisation des victimes d'actes criminels, ça s'appelle IVAC, a changé en 2021. Donc, tous les accidentés, toutes les victimes d'actes criminels depuis le 14 octobre 2021 sont sous ce qu'on appelle la nouvelle loi. Anciennement, avant octobre 2021, les victimes d'actes criminels étaient indemnisées sous forme de rente. Il y avait du salaire, il y avait des rentes aussi qui étaient versées. Ces rentes-là étaient payées à vie. Donc, jusqu'au décès. Alors, il y a actuellement au Québec des milliers de victimes d'actes criminels qui ont été agressés. Ça peut être les victimes de la mosquée de Québec, ça peut être des victimes d'agression, d'invasion de domicile, agression sexuelle. Donc, les gens sont payés souvent sous forme de rente. Donc, si, par exemple, tu avais 50 % d'incapacité, que les médecins établissaient ton handicap à 50 % d'incapacité pour une dépression ou un stress post-traumatique, mais tu avais droit à une rente correspondant à 50 % de ton salaire le reste de ta vie. Mais le ministre Jolin Barrette de la Justice a changé ça. Il a aboli les rentes et il a décidé de permettre d'avoir du remplacement de revenus pendant une certaine période. Essentiellement, sauf exception, c'est 3 ans. Alors, on n'a jamais compris pourquoi c'était 3 ans. Moi, je me suis opposé à ça avec toute l'énergie que j'ai pu y mettre à l'époque, en 2021, en disant, ministre, ça n'a pas de bon sens, vous arrêtez les rentes après 3 ans. Donc, pourquoi après 3 ans? On n'a jamais pu me l'expliquer. Ça aurait pu être 5 ans, ça aurait pu être 10 ans, ça aurait pu être 2 ans, 1 an. Mais la loi sur les accidents du travail permet l'indemnisation jusqu'à 68 ans, le remplacement de revenus. À 65, ça baisse de 25 % par année, parce que 68, il n'y en reste plus. La loi de la SAC, c'est sensiblement la même chose. Mais la loi de l'IVAC, c'est 3 ans. Donc, okay. C'est complètement incohérent par rapport aux autres lois du même type qui sont en vigueur au Québec depuis des années. Et là, les parents de la garderie de la garderie de Laval, dont je viens de parler, qui sont indemnisés par IVAC, qui voient que le rétablissement est long, et ils voient qu'ils ont beaucoup de problèmes à faire face à la vie, ils ont des psychologues qui s'en occupent, puis ils sont arrêtés de travailler. Puis là, ils réalisent que c'est 3 ans maximum, puis il y en a qui capotent parmi ceux-là parce qu'ils se disent, bien, si jamais mon incapacité va au-delà de 2026, est-ce que je vais avoir du remplacement de revenus ou on va m'abandonner? Mais la réalité, c'est qu'on va l'abandonner parce qu'après 3 ans, il n'y aura plus de remplacement de revenus pour la plupart des victimes. Puis ça, ça fait l'objet d'un article dans la presse cette semaine. Et ce que j'ai dit au journaliste Nicolas Bérubé de la presse qui couvrait l'événement puis la détresse des victimes, c'est que oui, depuis 2021, la loi a changé ces 3 ans. Ça veut dire qu'en 2024, 2025, les victimes d'actes criminels de 2021, ça va crier, là. Comprends-tu? Parce que la plupart sont indemnisés pendant 3 ans. Et le ministre a fait le pari d'avoir un montant, une période limitée pour l'indemnisation du remplacement de revenus. Mais on risque en 2024, 2025, 2026 d'avoir beaucoup d'accidentés. Tu vas avoir des manchettes à plein, toutes des victimes d'actes criminels qui vont voir leur indemnité se terminer. Alors, tu sais, si tu es attaqué par une gang de bandits au crowbar en sortant de chez vous un matin, là, coma, victime d'actes criminels, traumatisme crânien, hémorragie cérébrale, peux-tu te dire que tu ne feras pas de la radio longtemps?
Ah non, c'est sûr.
Tu vas être indemnisé pendant combien de temps? Mais si ton incapacité est permanente puis que tu ne peux plus travailler, c'est surtout pour les gros invalides, là, ouais. Ceux qui arrêtent de travailler 3 mois parce qu'il y a une claque sur la gueule, je comprends, là, ça va. Mais ceux, les 3 ans et plus, là, c'est les gros accidentés, c'est les méga. C'est ceux qui ont véritablement des énormes blessures et qui ne s'en remettent pas. Alors, je pense qu'on va avoir, au cours des prochaines années, ces 3 ans-là, dans la nouvelle loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels, risquent de faire beaucoup mal aux victimes, et c'est un recul net pour les accidentés.
Grossophobie médicale, on avait mis ce dossier-là de côté la semaine dernière, mais on y revient ce soir, Maître Bellemare. Moi, j'ai plein d'empathie pour les gens qui avaient des problématiques, qui se sont présentés à l'hôpital, puis qui avaient effectivement des cancers, mais que le médecin disait, ben maigrissez, monsieur. Mais... là où j'ai un petit peu de misère, c'est quand les gens sont gros puis ils veulent pas se faire dire par le médecin qu'ils doivent faire plus d'exercice, manger mieux, boire un petit peu plus d'eau. Quelqu'un qui boit énormément se fait dire par son médecin, « Monsieur, vous devriez peut-être arrêter de boire de l'alcool, ça peut nuire à votre qualité de vie, ça peut peut-être même vous amener vers la mort. » Quelqu'un qui fume comme une cheminée peut se faire dire ça par un médecin. Mais on dirait qu'aujourd'hui, quand tu es obèse, ben, tu veux pas te le faire dire par le médecin, alors que, bon Dieu, l'obésité, c'est dangereux pour ta vie aussi. Donc, cela dit, j'ai de l'empathie pour les gens qui avaient des problématiques puis que les médecins semblaient ne pas les écouter. Mais comment on peut en venir à un juste milieu, Maître Bellemare? Je pense qu'un médecin se doit de dire à son patient, « Monsieur, vous buvez trop. Monsieur, vous fumez trop. Et monsieur, vous êtes gros et c'est nuisible pour votre santé à long terme. »
Moi, personnellement, moi, je suis favorable à ce que les médecins tiennent ce genre de discours-là, en autant que ce n'est pas un discours... méprisant ou un discours exact. Agressif.
Exact.
Un médecin, normalement, est censé vouloir le bien-être de ses patients. Puis s'il y a une pathologie ou une blessure ou une maladie, il est censé essayer de trouver une solution pour régler cette problématique-là. Mais que le médecin ait un discours qui va amener l'accident, la personne obèse à modifier son alimentation, à faire plus d'exercices, à bouger davantage, c'est tout à fait normal. Puis ça fait même partie de son obligation parce que c'est le bien-être de son patient qui recherche. Et souvent, c'est le bien-être des enfants de son patient, parce que c'est sûr que si tu as une personne qui pèse 350 livres, puis qui boit deux cokes par jour, puis qui mange des chips, puis qui se nourrit mal, bien, c'est éventuellement les enfants qui vont avoir la même problématique. Donc, je pense que c'est un problème un problème social aussi auquel on fait face. Ceci étant dit, dans les articles qu'on a vus, notamment dans le Journal de Québec, il y a quelques jours, il y avait des gens qui, parce qu'ils étaient gros, n'avaient pas eu accès à des soins et à une investigation correcte. Une personne, par exemple, qui présente un problème de bile, un problème de foie, un cancer de l'intestin, puis le médecin qui dit, ben bois de l'eau puis marche, mais là, il y a des limites. Là. Encore faut-il que le médecin fasse son travail puis qu'il cherche à savoir s'il n'y a pas derrière l'obésité ou à travers l'obésité une problématique réelle, un problème de santé réel. Ces gens-là n'ont pas plus de droits des personnes obèses que ceux qui ne le sont pas, que celles qui ne le sont pas, mais ils n'ont pas moins de droits non plus. Donc, ça veut dire que si éventuellement il y a un médecin qui ne fait pas sa job, mais il y a des recours en justice. Si jamais il y a un dommage, il y a un recours en responsabilité médicale pour obtenir de la cour un jugement pour que la personne soit indemnisée si jamais elle a subi un dommage important ou un dommage permanent en lien avec l'omission du médecin de faire les investigations nécessaires. Mais il y a aussi des recours en déontologie, c'est-à-dire que la personne obèse peut faire une plainte au Collège des médecins pour que le médecin soit sanctionné pour ne pas avoir fait les choses nécessaires face à son patient. Et il y a aussi des recours, à mon avis, en vertu de la Charte des droits de la personne. Parce que c'est sûr qu'une personne qui présente un fort tour de taille, léger, fort tour de taille, mais tu sais, qui est légèrement obèse, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont un surpoids, mais c'est pas parce que c'est un surpoids que tu es nécessairement obèse, là. Mais quelqu'un qui pèse deux fois son poids normal, ça peut être constitué un handicap aussi. Et en vertu de la Charte des droits et libertés du Québec, l'article 10, on ne peut pas discriminer quelqu'un sur la base de la religion, sur la base de l'orientation sexuelle, sur la base du sexe, ou encore sur la base d'un handicap. Alors, ça pourrait constituer un handicap, dépendant évidemment du niveau d'obésité auquel on fait face. Mais quelqu'un qui est franchement obèse, pathologique, cette personne-là aurait un recours au niveau de la Commission des droits de la personne pour obtenir un dédommagement de la même façon que Jérémy Gabriel l'a fait face à Mike Ward ou de la même façon que qui que ce soit qui est discriminé, pour quelque raison que ce soit, un handicap notamment, peut s'adresser à la Commission des droits de la personne, porter plainte. Et la commission peut amener l'affaire devant le tribunal des droits de la personne pour que la personne lésée obtienne un dédommagement.
Je regardais les statistiques, Maître Bellemare, c'est plus de 7 Québécois sur 10. En fait, c'est 69% là, précisément des Québécois qui sont insatisfaits de leur poids. Il y a 36% des Québécois qui se disent victimes de grossophobie et ces gens-là disent que ça vient de professionnels de la santé. Donc, 4 Québécois sur 10 disent que quand ils sont victimes de grossophobie, ça vient de professionnels de la santé. Le chiffre grimpe à 48% pour ce qui est des femmes et il y a 9% des gens qui se sont abstenus de consulter en santé. Puis là, c'est là où ça devient très dangereux. Là. 9% des gens qui se sont abstenus de consulter en santé pour éviter de devoir parler de leur poids. Et le tiers des gens sont inconfortables à l'idée de parler de poids avec les professionnels de la santé, surtout avec les médecins. On dirait qu'il y a une grosse gêne. C'est une gêne qui est mal placée. Là. Je veux dire, s'il y a bien des gens qui peuvent vous aider, c'est les gens qui sont en santé. Puis oui, tu sais, si vous avez un surplus de poids, ça se peut que le médecin vous en parle au même titre que si vous buvez, si vous êtes trop actif sur la bouteille d'alcool ou si vous êtes trop actif sur la drogue. Ça se peut que votre médecin en parle.
Oui, c'est ça. Puis, tu sais, il y a peut-être un peu d'exagération. Moi, je connais des filles qui paient 110 livres et qui se trouvent grosses. Là, tu sais, à un moment donné, là, écoute, on vit dans un monde où on est très sensibilisé à l'importance de l'image. Il y a beaucoup de gens qui se trouvent gros. Il y a beaucoup de gens qui se trouvent... Bon, un surpoids, ça ne veut pas dire nécessairement que que tu fais face à de la grossophobie. Il ne faut pas capoter non plus avec ça. Mais c'est un phénomène, je pense, qui est réellement vécu chez des gens qui sont réellement obèses. Là. Je parle de gens qui sont vraiment en surpoids, pas nécessairement parce qu'ils ont mangé trop de dinde à Noël, là, mais tu sais, qui sont véritablement en surpoids puis qu'on peut catégoriser comme étant obèses, pathologiques. Là. Alors, ces gens-là ont des droits, bien, c'est pas parce que tu as 12 livres de plus que ce que tu avais il y a 4 ans que tu es nécessairement admissible à toutes sortes d'indemnités et à toutes sortes de recours. Il faut faire attention, il faut vraiment que ce soit des cas clairs.
OK. Dernier sujet, Maître Bellemare. Il nous reste à peu près 3-4 minutes. On parle de travaux municipaux. Est-ce que la ville est responsable des dommages qu'elle crée chez vous? La source, c'est vraiment éducalois.qc.ca, qui est un excellent site là, pour connaître la loi, soit dit en passant. Donc, éducalois.qc.ca.
Oui, les villes, comme toutes les personnes, sont responsables des dommages qu'elles causent. Là, je parle notamment comme cet hiver, là, tu sais, les souffleuses qui garochent de la garnotte puis 56 000 cochonneries sur ton terrain, des tracteurs qui vont aller gruger une partie du gazon, des problèmes d'égouts ou d'aqueducs qui vont péter puis qui vont faire que ton sous-sol va être inondé. Alors oui, les villes sont responsables. Par contre, souvent, les personnes lésées vont oublier de donner un avis à la ville parce que les lois, généralement, dans le cas des dommages matériels, prévoient qu'il faut que tu donnes un avis de 15 jours. C'est-à-dire que faut que tu dénonces à la municipalité dans les 15 jours, par exemple à Briqueville ou à Saint-Georges-de-Beauce ou à Lévis, il faut que tu donnes un avis. Si, par exemple, s'il y a de l'eau dans ton sous-sol, tu envoies une lettre à la ville, tu dis « je vous tiens responsable des dommages causés ». Voici les dommages essentiellement. Souvent, on n'a pas toute l'étendue des dommages dans les 15 jours, mais il y a un avis qui doit être donné, puis après ça, il y a une poursuite qui peut être intentée. Si c'est des dommages corporels, tu n'as pas cet avis-là à donner, c'est 3 ans le délai pour poursuivre. Mais si vous avez des problèmes avec la ville, soyez assurés que vous devez envoyer un avis, une espèce de pas de mise en demeure, mais presque. Là, tu as un avis comme quoi il y a un dommage qui a été causé. Mais pourquoi les lois sont faites comme ça, c'est pour permettre à la ville, d'investiguer les lieux, de vérifier le sous-sol, de vérifier quelle est la source du problème pour empêcher que le dommage ne soit plus important, puis deux, peut-être y remédier. Parce que si tu attends que ton sous-sol soit complètement contaminé, qu'il y ait des champignons partout, avant de le dire à la ville, bien là, ils n'auront pas nécessairement l'opportunité d'intervenir pour mitiger les dommages. Alors, essentiellement, c'est ça. Fait qu'il faut agir prestement parce qu'il y a beaucoup de recours qui sont refusés devant les cours de justice parce que les gens n'ont pas donné l'avis de 15 jours à la municipalité. Donc, bougez tout de suite. Quand vous recevez, quand vous avez l'assurance d'avoir été victime d'un dommage de la part de la ville et que vous soupçonnez que ce soit la ville, envoyez un avis de 15 jours à la ville en question. Et à ce moment-là, consulter un avocat.
Et si c'est un entrepreneur qui agit à titre de sous-contractant pour la ville, Maître Bellemare, est-ce que c'est les mêmes responsabilités?
Bien, moi, je te dirais que l'entrepreneur peut être personnellement tenu responsable aussi, si on est capable de l'identifier. C'est pas toujours facile parce que la ville donne des sous-contrats, puis des fois, une charte, il retrouverait pas ses petits, là. On sait pas trop qui a fait quoi, puis qui a la responsabilité de quoi, puis qui a la compétence de faire quoi, parce que ces contrats-là sont pas connus du grand public. Mais la plupart du temps, ce qui va arriver, c'est qu'il y a un avis qui est donné à la ville. L'entrepreneur, ce n'est pas nécessairement le cas. Tu as 3 ans pour le poursuivre, tu n'es pas nécessairement obligé de donner un avis. Mais la ville, si tu penses qu'elle a une responsabilité partielle ou totale, c'est mieux de donner un avis dès que tu es au courant. Normalement, dès que tu es au courant du dommage, de l'infiltration, tu envoies une lettre à la ville pour dire « je vous tiens responsable du dommage ». Puis à ce moment-là, ce sera l'avocat à faire le partage des deux. Mais la plupart du temps, ces recours-là vont être adressés conjointement et solidairement à la ville et à l'entrepreneur pour être sûr qu'on n'échappe personne.
Maître Bellemare, vous avez fait votre BA de la semaine, donc je vous souhaite de passer une belle fin de soirée. Partez en paix, mais je veux juste vous dire quelque chose parce qu'on n'a pas eu l'occasion de se parler depuis nos résultats numériques de la semaine passée. On est, depuis l'ouverture de cette belle franchise-là qui est BLVD, on est l'émission qui a le prix le plus rapidement des parts de marché. On est rendu à 14 parts de marché le soir. Puis c'est Steven Croato, le directeur de la station, directeur général de la station, qui a dit « Nous, on n'a jamais vu ça, les parts de marché qui ont augmenté comme ça. Puis vous faites partie de ce beau succès-là de Marceau Soir. » Donc, je tenais à vous le dire personnellement. On est ensemble dans une autre vie radio, puis vous êtes revenu avec moi dans cette vie-là. Puis il y a un petit peu de vous là-dedans, puis je vous en suis éternellement reconnaissant, Maître Bellemare.
Parfait, c'est bien plaisant d'entendre ça. Content, on va continuer.
Ben, de plus en plus de gens qui vous écoutent. D'après moi, c'est pas à cause de votre grande beauté.
Ah ben là, c'est encore drôle.
C'est vos grandes connaissances.
C'est un autre débat.
Maître Bellemare, merci beaucoup pour des dossiers
Oui, exact. Bonne semaine.
Bye bye, bonne semaine pour des dossiers d'IVAC, de SAAC, de CNSST, c'est bellemareavocat.ca. Je vous laisse là-dessus, puis on se rejase demain 11h pour ce qui est de Marceau le midi. Merci d'avoir été là. Bye bye.
Marceau le soir.
Marceau Soir, présenté par Voyage Aquaterra Lévis, Québec. Visitez la nouvelle agence de Québec. Maintenant, deux adresses pour vous servir, boulevard Bastien à Québec et avenue Taniata à Lévis.
Ici Pascal Morissette pour vous présenter mon nouveau jeu de société, Devinaigrette. Deux indices, deux réponses que vous fusionnez pour solutionner. Exemple, célèbre biscuit à la guimauve enrobé de chocolat et flatulence de nonne. La réponse, oui, pète de sœur. C'est le fun, hein? Devinaigrette, le jeu de l'heure pour s'amuser avec les mots. C'est quatre niveaux de difficulté pour que tout le monde y trouve son compte, mais c'est surtout un cadeau parfait à mettre sous le sapin. En vente dans votre boutique de jeux préférée ou au randolph.ca.
Cassoulette, casserole, cassolette. Peu importe comment tu les nommes, les quatre nouvelles cassolettes de chez Tutti Frutti vont te donner l'eau à la bouche. Érablière, steak Philly, saucisse italienne et pourquoi pas croustade aux pommes pour dessert. Pour les meilleures cassoulettes, cassolettes, tuttifruttidéjeuner.com.
Bonne nouvelle, on a des ID4 en inventaire. Si vous le saviez pas, là vous êtes au courant. Venez faire l'essai du véhicule électrique le plus en demande sur le marché et repartez avec. On en a disponible pour livraison immédiate. Volkswagen Saint-Nicolas, ça clique avec Saint-Nic. www.saint-nicolas.com.
As-tu attendu à Commère?
Ben oui, elle me l'a dit. Et hey, puis tu sais pas quoi?
Ben voyons donc.
Ben oui, la Commère Magasin Général, le nouveau magasin dont tout le monde parle à Québec. Tu rentres ici, il y a de la couleur et de la joie partout. D'un côté, ça déborde de cadeaux d'hôtesse et de trouvailles pour les fêtes. De l'autre, tu as du stock en masse pour remplir tes bonnes Noël. Et si t'avances encore, tu vas découvrir le coin bonbon le plus spectaculaire. Au méga centre Le Bourgneuf, près du Winners, lacommère.ca.
Ben voyons donc.
Acheter ici, c'est choisir ses cadeaux ici pour que Marie-Josée puisse offrir une si belle qualité de produit. C'est acheter notre sirop ici pour qu'Audrey et Alicia puissent continuer leur belle complicité. C'est choisir la musique d'ici pour que Wassim puisse nous donner des frissons avec sa voix. C'est ce sucré le bec-là pour qu'Antoinette puisse encore nous offrir ses plus beaux sourires. La langue, c'est moi, c'est toi, c'est nous. Achetons ici et en français. Un message d'impératif français.
Chez Sport Expert et Atmosphère, jusqu'au 24 décembre, les Aubaines des Fêtes vous offrent jusqu'à 40% de rabais sur une foule de produits de saison. Détails en magasin ou à sportexpert.ca.
La revanche, c'est ton resto-pub préféré. Mais as-tu déjà pensé à y faire ton magasinage des fêtes? Des jeux de société à tous les prix pour petits et grands, jeux de party ou de stratégie et conseillés par les plus fins connaisseurs. Beauport, Saint-Roch, Le Bourgneuf et en ligne. Boutique La Revanche.
Célébrez le temps des fêtes avec des offres incroyables au Siberia Spa. Obtenez jusqu'à 30% de rabais sur les forfaits sélectionnés jusqu'au 25 décembre. Pour plus de détails sur les promotions, rendez-vous au siberiaspa.com.
Si vous pensez à vos REER et CELI ces temps-ci, pensez à Desjardins. Parce qu'être bien conseillé pour cotiser, ça allège l'esprit. Et vous pourrez penser à autre chose, comme à quel point vous aimez la musique des fêtes.
Vos animaux sont notre passion.
Chez Animalerie Anisou et Animalerie Bilébule, on a tout pour vos animaux. Chats, chiens, perruches, canaris, furets, lapins, cochons d'Inde, hamsters, hérissons, gerbilles, grenouilles, caméléons, iguanes, poissons rouges, pétoques, crevettes et escargots.
Sur la rive sud, Animalerie Anisou et Animalerie Bilébule.
En juillet, évitez la cohue du déménagement en louant une unité au Charlie ou au Watier. De studio jusqu'à maison de ville, trouvez l'habitation et l'environnement parfait pour vous. De plus, emménagez en juin et ne payez rien avant juillet. Appartementurbain.ca. Certaines conditions s'appliquent.
Boulevard. 102.1.
Chez Noctem Artisan Brasseur, en plus de mettre des petits minous sur nos canettes, on vous offre des bières savoureuses et toujours garantes de qualité. IPA, sur aux fruits, pilsner, c'est simple. Peu importe le style, on le fait. Noctem, trouve le chat sur la canette.
En cette période des fêtes, Expert Finition 2020 remercie tous ses employés, clients et fournisseurs pour leur collaboration dans la dernière année. Expert Finition 2020, c'est votre référence en tirage de joint à Québec. Pour tout projet de construction neuf ou de rénovation, contactez Expert Finition 2020 sur Facebook.
Edify, une compagnie du groupe Prévian, souhaite de joyeuses fêtes à ses plus de 330 employés dans la région de Québec. Profitez de ce temps de repos bien mérité après une année où beaucoup de défis ont été relevés. Pour en savoir plus sur Edify, visitez tonavenirencontrôle.com.
Polaris et SM Sport vous offrent leur grande vente du temps des fêtes. Procurez-vous une motoneige Polaris et obtenez jusqu'à 4 800 $ de rabais ou un financement à partir de 1,49% sur les modèles 2023-2024. L'équipe de SM Sport vous souhaite de joyeuses fêtes. smsport.ca.
Amateurs de verdure, potager et d'agriculture urbaine, la boutique Vert Métal est là pour vous. Une boutique horticole éco-responsable qui vous offre des produits locaux, bio et plus encore. Vert Métal fabrique aussi une foule d'accessoires en inox pour plantes d'intérieur. Détails au vermetal.com.
Les gros week-ends couche-tard présentent...
Les aventures de gros et gros big.
Bon, il me reste juste deux, trois trucs à aller chercher, puis on est prêt pour les fêtes.
Ah ouais? Qu'est-ce qui te manque?
La machine à karaoké.
OK. Ben, tu me prendras des bouchons en passant?
T'insinues-tu que je chante mal?
Ouais.
Ben, t'as bien raison.
Du 12 décembre au 8 janvier, profitez du gros week-end des fêtes chez Couche-Tard. À l'achat de deux caisses de Pepsi pour 13 $, obtenez la caisse de Bud Light à 2,99. Et jusqu'au 3 janvier, à l'achat de deux caisses de vin Bud ou Bud Light, obtenez gratuitement un billet Célébration. Couche-Tard, simple comme bonjour. 18 ans et plus de détails en magasin.
Ces jours-ci, à la CSN, ce sont plus de 170 000 femmes et hommes qui sont dans la rue pour obtenir de meilleures conditions de travail, mais aussi pour doter le Québec de services publics qui remplissent pleinement leur mission. Ce combat-là, c'est celui des Québécoises et des Québécois qui veulent des services publics qui fonctionnent à leur plein potentiel, pour eux, pour leurs enfants, pour leurs parents et leurs proches. La solidarité que vous démontrez envers les travailleuses et les travailleurs fait une différence. Ensemble, continuons la lutte. Un message des fédérations du secteur public de la CSN.
Au Complexe du Phoenix, retrouvez l'un des rares restos de grillades et fruits de mer ouverts 7 jours sur 7. Du délicieux tartare en passant par nos fameux burgers, essayez nos plats en constante évolution concoctés par notre équipe en cuisine dirigée par l'inimitable chef Jonathan Devin. Réservation phoenixduparvis.com.
Donner, ça fait du bien. Et quand Saint-Nicolas-Nissan, Montmagny-Nissan et Paquette-Nissan vous donnent 750 $ de pneus d'hiver, ça fait plaisir à vous et toute l'équipe. Financez votre Ariya 100% électrique à partir de 2,99% ou louez-la à partir de 3,99% avec en prime. 750 $ en pneus d'hiver et redonnez au suivant lors de la grande guignolée des médias dont Nissan est fier partenaire. Détails pendant l'événement, là c'est Nissan. Chez Saint-Nicolas-Nissan, Montmagny-Nissan et Paquette.
Voici le témoignage d'un auditeur satisfait.
Salut, mon nom est Jean-François. Je suis originaire du Sud. En arrivant ici, on m'a dit il y a une certaine morosité dans les radios de Québec. Fais-toi plutôt une playlist. Diable que j'ai été déçu. J'ai accroché par mégarde le bouton de ma radio. Boulevard 102.1 tournait une musique endiablée tout en mettant de l'avant de savants animateurs aux sujets les plus dégourdis les uns que les autres. Merci, Boulevard 102.1.
Essayez Boulevard, vous le regretterez pas.
C'est l'heure. L'heure que vos haut-parleurs redoutent. Voici Max Larouche, le volume au max.
Ça, c'est du rock.
Excellent lundi, 11 décembre. J'espère que vous avez passé un excellent début de semaine et on poursuit ça dans le volume au max ce soir. Vous le savez, une heure et des poussières de la meilleure musique en ville. Et je dois dire qu'on commence en force avec, entre autres, un band qui risque de nous offrir un des meilleurs albums qui verra le jour en 2024, Sum 41 d'ailleurs. Il y a une nouvelle toune qui sort ce soir, minuit. On va certainement s'offrir un extrait de ça dans Rage Against le matin demain. Et c'est le succès Into Deep qu'on va entendre dans les prochaines minutes. J'aurai aussi Shine Down, Rise Against, The Offspring, Cage the Elephant. Et tout de suite, le groupe qui a donné mon album préféré de l'année 2023, l'album One More Time. Et là-dessus, il y a la toune One More Time, qui nous rappelle un peu le bon vieux temps de Blink avec I Miss You, qu'on s'offre à l'instant à Boulevard 102.1.
my nightmare. The shadow in the background of the morgue. The unsuspecting victim of darkness in the valley. We can live like Jack and Sally if we want. Where you can always find me. And we'll have Halloween on Christmas. And in the night we'll wish this never ends. We'll wish this never ends.
102.1.
Complain, but when you're driving me insane, well then I think it's time that we took a break. Maybe we're just trying too hard, when really it's closer than it is too far.
C'est une émission qui s'écoute le volume au max. Pas de question? Parfait. Voici Max Larouche.
Grosse séquence rock qu'on vient de s'offrir et j'en ai d'autres solides pour vous ce soir. En fait, c'est le cas chaque soir de 19h à 20h, 20h10, des fois on se permet de temps en temps de dépasser un peu. C'est pour la bonne cause, parce qu'on a de la bonne musique pour vous, puis ça se poursuit vraiment dans les prochaines minutes avec Coldplay, les Foo Fighters avec Love Dies Young, qui est dans les récentes des Foo Fighters, là, Love Dies Young, c'en est une que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, Day to Remember, Skull avec Reentry, Weezer avec une de mes préférées, encore une fois, Buddy Holly, Nirvana, gros classique comme As You Are. Et là, ben, on est dans le thème oui puis non, parce qu'on est en décembre. Par contre, la température, là, ces jours-ci, qui nous fait plus penser peut-être qu'au mois de novembre, avec la pluie, avec les températures au-dessus de zéro. Collective Soul, c'est December dans le volume au max à l'instant, avec Max Larouche.
Domain, you can't run it over again.